Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toute le monde. Aujourd'hui, édition spéciale en ce jeudi 2 février 2017, consacrée en grande partie à la mort de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi à l'âge de 84 ans hier à Bruxelles. Au micro, Idrissa Seludia, bonjour. Au cours de sa vie politique, Étienne Tshisekedi a donné de nombreuses interviews à VOA Afrique. Morceau choisi dans cet extrait du 17 novembre 2011, en pleine campagne électorale pour la présidentielle, Nicolas Pineau avait rencontré le leader de l'UDPS à Bukavu.
Notre peuple a le droit d'utiliser la seule arme qu'il a, c'est la mobilisation. Il s'est mobilisé pour pouvoir faire pression sur M. Mulunda pour assurer un processus démocratique réellement transparent. Et quelle réaction? La réaction de la fameuse autorité, c'est quoi? Tuer, torturer, arrêter. Voilà. Ils ont, en un mois, ils ont tué 7 de nos combattants comme ça, manifestants, pacifiquement.
Étienne Tshisekedi, le 17 novembre 2011, à Bukavu. Voici comment Bruno Tshibala, numéro 2 de l'UDPS, a confirmé à Eddie Isango la mort du leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi.
Malheureusement, je confirme qu'effectivement, le président
oui, il est parti de Kinshasa pour juste un contrôle, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que sa situation s'était entre-temps dégradée?
Il est parti consulter son médecin à Bruxelles, où il était suivi. Nos premiers examens étaient bons. Il a suivi un check-up général. Mais au moment où il avait été demandé d'observer un repos, d'une manière surprenante, il a succombé. Et donc, je confirme que le président de l'UDPS et du Conseil de du Rassemblement a rendu l'âme.
Bruno Tshibala, numéro 2 de l'UDPS. Revenons sur la vie d'Étienne Tshisekedi avec Nicolas Pineau.
Étienne Tshisekedi voit le jour à Loulouabourg, dans ce qui est alors le Congo belge. Nous sommes le 14 décembre 1932. La ville s'appellera plus tard Kananga, dans le Kasaï. Celui qui sera le premier diplômé en droit du Congo soutient le coup d'État de Mobutu en septembre 1960. Il fait partie du collège des commissaires généraux mis en place pour éjecter le gouvernement de Patrice Lumumba. Dans les années 60, Tshisekedi sera plusieurs fois ministre sous Mobutu et va même jusqu'à soutenir la pendaison publique d'opposants. Tshisekedi et Mobutu en corps fonde ensuite le mouvement populaire de la révolution, dont Étienne Tshisekedi deviendra le premier secrétaire de ce parti unique. Ce n'est que 20 ans plus tard, en décembre 1980, qu'Étienne Tshisekedi devient opposant et dénonce le régime prédateur de Mobutu. En 1982, Tshisekedi crée l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, un parti qui réussit très vite à élargir son audience au-delà des Kasaï. En 1990, Tshisekedi n'est plus assigné à résidence à Limété et l'UDPS peut enfin agir au grand jour. En août 92, au terme de la conférence nationale, Tshisekedi est même élu premier ministre de Mobutu, mais la cohabitation ne dure que 7 mois. En 1997, à la chute de Mobutu, Tshitshi pense son heure venue, mais le nouveau maître du Congo, Laurent Désiré Kabila, ne l'entend pas de cet avis. Il envoie le sphinx de Limété dans son Kasaï natal. En juin 2006, Tshisekedi boycotte les premières élections pluralistes et dénonce la mainmise occidentale sur le scrutin. 5 ans plus tard, en 2011, face à un scrutin présidentiel à un tour, Joseph Kabila est donné gagnant de ce scrutin dont l'Union européenne dénoncera plus tard les fraudes et irrégularités. Tshisekedi, lui, ne reconnaîtra jamais ces résultats. La présidentielle de 2016 n'ayant pas eu lieu, la majorité et l'opposition ont signé un accord politique le 31 décembre dernier. Tshisekedi avait été désigné pour piloter le comité de suivi d'application de ces accords. Il n'en aura pas l'opportunité et la République démocratique du Congo plonge dans une grande période d'incertitude. Tshisekedi s'en va sans avoir vu la première transition pacifique de l'histoire politique du pays.
Le compagnon de longue date de M. Tshisekedi, maître Joseph Mukendi wa Mulamba, a été visiblement bouleversé quand il a été contacté hier par Idriss Fall.
Cette disparition, sur le plan personnel, je peux dire que c'est mon père, que c'est en politique. Je suis vraiment profondément bouleversé. Mais dans ce bouleversement, Je suis aussi plein d'espoir parce qu'il est mort après l'accord de la Saint-Sylvestre. Et cet accord est devenu irrévocable. Et j'ai, malgré la tristesse, le sentiment qu'il a mis notre pays sur les rails. Et nous ne pouvons qu'aller dans la direction, ce qui fait que dans cette tristesse, nous devons l'honorer d'aller de l'avant, d'être debout, d'aller de l'avant pour parfaire le chemin de la paix. Cette paix pour laquelle il a vécu tout ce temps, cette paix pour laquelle il a sacrifié sa famille, il a sacrifié tous les biens matériels et pour lesquels il vient de s'offrir lui-même. Et je pense que devant cela, nous avons le devoir de pouvoir aller de l'avant, de continuer, de le pleurer dignement, mais de faire le travail qu'il a commencé et qui permettra à notre pays d'être debout.
Est-ce que Étienne Tshisekedi se battait seulement pour le pouvoir parce qu'il avait eu l'occasion de prendre le pouvoir plusieurs fois au cours de l'histoire, depuis Mobutu, plusieurs fois?
Effectivement, le grand problème, c'est que M. Étienne Tshisekedi se battait avant tout pour l'idéal. Parce que si c'était pour le pouvoir, à plusieurs occasions, on lui a donné la possibilité de prendre le pouvoir pour le pouvoir, il avait refusé. Et son grand problème, c'était le changement. C'était la paix de cœur, c'était le rayonnement du Congo et la vraie démocratie. Et c'est pour ces valeurs-là qu'il est mort. Et ce sont ces valeurs-là qui sont vivantes, qui nous permettent, nous les Congolais, dans la tristesse, de parler avec force. Dire que notre papa est mort, mais notre papa est vivant parce qu'il nous a laissé des valeurs qui nous permettent d'aller de l'avant, de transformer ce pays comme nous, il avait toujours rêvé qu'il soit.
Est-ce que l'UDPS saura porter son héritage plus en avant?
Certainement. Déjà, depuis son retour au mois de juillet, il avait commencé un grand travail de rassemblement qui porte déjà les fruits. Et dès demain, les instances dirigeantes de l'UDPS vont pouvoir reprendre la situation en main pour pouvoir continuer le travail titanesque que le patriarche a déjà mis sur les rails et qui nous permettra donc d'aller de l'avant. Il suffit seulement de pousser.
Le vieux, comme certains l'appellent, ou bien le sphinx de Limété, expliquez cet attachement que les Congolais avaient vis-à-vis d'Étienne Tshisekedi.
Oui, c'est vrai. Tous ces mots-là, le sphinx, le leader Maximo, eh bien, le leader Maximo n'est pas là, mais il est dans le cœur de tous les Congolais. Même ceux qui, pour des raisons idéologiques, n'étaient pas de son côté, il le considérait comme une personnalité. Je pense qu'en ce moment, plus qu'un leader politique, ce sont les valeurs qu'il portait, les valeurs pour lesquelles il s'est battu, les valeurs pour lesquelles il s'est sacrifié. Ça, c'est important. Il nous a donné un exemple de sacrifice rare dans le monde. Et je pense que devant cette immensité, toutes les personnes ont le devoir de pouvoir être derrière ces vidéos, derrière ces valeurs pour que le pays aille de l'avant.
Le compagnon de longue date de M. Tshisekedi, maître Joseph Mukendi wa Mulumba. Des militants de l'UDPS ont vite gagné la permanence de leur parti pour faire le deuil dès qu'ils ont appris la mort de leur leader. Mais certains, qui selon la police essayaient de troubler l'ordre public, ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Les détails sur place avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Aussitôt après avoir appris cette terrible nouvelle, une centaine de militants de l'UDPS s'est rendue à la permanence du parti dans la commune de Limété. Beaucoup voulaient surtout certifier cette information qui a très vite été répandue dans les rues de Kinshasa comme une traînée de poudre. Sur place se trouvaient le secrétaire général de l'UDPS, Jama Kabund, et Félix Tshisekedi, fils du disparu qu'accompagnaient José Ndundo, Pierre Lumbi du G7 ou encore Délice Essanga de l'Envol, des plateformes du rassemblement que dirigeait jusqu'à sa mort Étienne Tshisekedi. Déception, pleurs et émotions étaient très visibles parmi les militants de l'UDPS dont le nombre croissait au fil des minutes malgré la fine pluie qui arrosait la capitale. Certains d'entre eux, pris de colère, sont même allés barricader la route avant de se faire disperser par la police à coups de gaz lacrymogène. La famille biologique d'Étienne Tshisekedi, les amis et proches de la famille se sont eux retrouvés ce même soir du 1er février dans la résidence de Félix Tshisekedi pour faire le deuil. Kinshasa, Thierry Kambouni de Top Congo FM pour VOA Afrique.
À Goma, dans le Nord Kivu, notre correspondant Charlie Kasereka a recueilli les réactions suivantes.
Oui, moi c'est Christian Badossé, secrétaire national à l'implantation de l'ECID.
Un parti de l'opposition. Est-ce que pour vous, perdre ce qu'est dit, c'est vraiment une perte?
Non, c'est une grande perte. Nous avons perdu un modèle dans toute la République. Un homme qui a montré qu'on peut faire la politique avec la conviction, non avec son ventre, tel que la classe politique congolaise s'est réputée. Et nous, aujourd'hui, si nous acceptons d'être arrêtés à tout moment, emprisonnés, c'est à cause du modèle que nous a légué Tshisekedi. Et nous sommes sûrs, nous les disciples de Tshisekedi, qui avons reconnu ses valeurs, nous allons nous retrouver et faire un front commun pour qu'un jour nous puissions diriger différemment des autres. C'est ça, ça sera appelé le système Tshisekedi. Et c'est le système qui s'opposera au système Mobutu qui est aujourd'hui en continuité au nom du système Kabila.
Merci beaucoup, je suis Ezekiel Semouhaya, cadre du PPRD Nord Kivu. Oui, d'abord, politiquement, il faut dire que nous, nous sommes un parti, non pas un parti État. Et dans ces conditions-là, nous avons besoin d'un opposant. Et puis d'un opposant d'État, comme M. Étienne Tshisekedi, qui vient de nous quitter, d'abord, paix à son âme, et toutes nos condoléances à sa famille biologique, particulièrement aussi à sa famille politique. Mais il faut. L'histoire retiendra que Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Il a joué le rôle qu'il fallait jouer parce que chaque fois qu'il le rappelait, qu'il faisait trop de bruit, ça nous rappelait qu'il y avait quelque chose qu'il fallait aussi ajouter à réaliser. Mais aussi, l'histoire retiendra que Tshisekedi, c'est un homme politique qui était de la situation changeante. Donc, avec lui, il pouvait accepter ceci, refuser le soir. Demain, il acceptait ceci, refuser le soir. Nous retiendrons ça.
Par rapport à la mort de Étienne Tshisekedi, moi, en tant que femme, pour moi, c'est un regret. Parce que c'est un leader que nous venons de perdre. Parce que dans une famille, vous ne pouvez pas avoir des enfants des mêmes idées, des mêmes impressions. Mais il faudra des gens parés pour le développement de notre pays.
On le voulait encore, on avait encore besoin de lui. Tshisekedi est parmi les premières personnes qui ont beaucoup milité pour la vraie démocratie en République démocratique du Congo. Et vous voyez, bientôt on va vers l'alternance. Et cet homme d'une grande valeur vient de nous quitter vraiment. Tous les Congolais, tout le monde est en train de regretter.
Réaction recueillie à Goma par Charlie Kasereka. Eddie Sango, lui, a recueilli la réaction d'Henri Mova Sakani, leader du PPRD, le parti au pouvoir en RDC.
C'est une très grande perte pour la nation congolaise. Un gros chagrin pour pas seulement le milieu politique, mais emblématique. C'est un politique qui sera marqué pratiquement toute la période du Congo indépendant. Il est sur la scène politique depuis très très longtemps et il a structuré dans une large mesure non seulement la position congolaise, mais aussi la politique congolaise. Je crois que si ce qui est dit mort, la politique ne se fera plus de la même manière. Il faut avouer parce que c'est la fin d'une époque. Ça il faut avouer. C'était parmi les derniers des personnalités qui ont marqué la politique du Congo de la RDC indépendante. Et nous exprimons à cet égard beaucoup de regrets. Une pensée pour sa famille, son épouse Mama Marthe, pour ses enfants et ses militants, ses nombreux militants de son parti.
Vous dites que la politique ne se fera plus de la même manière. Il est parti, il est mort, alors que maintenant les tractations pour la mise en application de l'accord du 31 décembre tendent vers la fin. Il y a quelques petites complications. Est-ce que vous pensez qu'avec sa mort, la situation permettra à ce qu'on puisse régler ces problèmes qui restent?
Pour le moment, c'est l'émotion qui prévaut. C'est la perte qui va être importante. On va entendre d'abord à ça. Lorsque je parle de la politique, serait autrement, parce qu'il n'aura pas été quand même un personnage structurant, non seulement pour l'opposition, mais aussi la politique s'est faite quand même d'une certaine manière, de sa présence, son charisme et sa personnalité auront marqué quand même du fédération, la politique congolaise en général. Qu'il soit absent, je crois que les acteurs de son camp, même des camps, se comportent de la même manière. Et j'estime que c'est la fin d'une époque, il faut l'avouer.
Opposant de longue date, il était quand même aussi les contrepoids du pouvoir actuel. Est-ce que vous pensez qu'avec sa disparition, un déséquilibre ne va pas se créer, vous qui êtes du parti au pouvoir?
De toute façon, il restera irremplaçable par sa personnalité, sa force de personnalité, la durée des vies dans l'opposition.
Henri Mova Sakani, leader du PPRD, le parti au pouvoir en RDC. Pour comprendre l'éventuel avenir de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi et la suite du processus politique en RDC, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles un consultant diplomatique, Henri-Désiré Nzouzi.
L'avenir se décidera à l'aune de la capacité des uns et des autres de faire le deuil de la disparition d'Étienne Tshisekedi, mais surtout de pouvoir se dépasser dans l'intérêt bien compris d'un parti qui a vocation, bien évidemment, à survivre à son cofondateur.
Il était malade depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Est-ce qu'il n'aurait pas préparé sa succession ou désigné son successeur?
Cela avait été le cas, ça se saurait. Mais comme dans toute famille politique, il est légitime que les ambitions s'expriment. Mais c'est vrai que de son vivant, il n'a pas formellement désigné celui qui aurait cette immense responsabilité de lui succéder. C'est pour ça d'ailleurs que je fais appel à la sagesse des uns et des autres pour privilégier justement la survie d'un parti plutôt que de l'exposer à des querelles internes qui pourraient précipiter sa disparition.
Il n'avait pas encore pris sa retraite, il allait même jouer un rôle majeur dans la transition politique avant les élections présidentielles de cette année. Quel est l'avenir de la démocratie en RDC sans Tshisekedi?
Je pense que, ayant été d'une certaine manière à la manœuvre, mais aussi à l'origine, en tout cas, de l'éveil de conscience des Congolais pour justement l'apport démocratique dans ce pays, son héritage devrait être sans trop de difficultés perpétué. Je pense que les Congolais sont aujourd'hui suffisamment mûrs que pour pouvoir créer les conditions d'une consolidation de ce processus démocratique qui est encore jeune, vit parfois, je dirais, des moments difficiles, hein, compte tenu du comportement de certains acteurs politiques, mais c'est inscrit aujourd'hui dans les mentalités, dans les consciences. Et donc, à ce niveau-là, je ne me fais pas beaucoup de soucis. Il faudra simplement veiller que ces héritiers politiques puissent perpétuer sa pensée, sa vision, afin précisément qu'elle puisse s'installer durablement. Mais aujourd'hui, les Congolais ont atteint cette maturité qui font qu'ils peuvent aujourd'hui se réapproprier un processus qui, d'une certaine manière, leur permettrait d'envisager des lendemains meilleurs.
Le vieux Tshisekedi n'est plus, mais quelle est la suite maintenant du processus politique?
Il va falloir quand même respecter la période de deuil, donc je pense que des funérailles nationales lui seront consacrées. Une fois ce moment de recueillement passé, il faudra effectivement revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la suite du processus. On sait qu'un accord a été signé, mais que malheureusement, il ne peut être exécuté ou mis en œuvre faute de signature de l'arrangement particulier. Et donc, il va falloir s'assurer que la disparition d'Étienne Tshisekedi ne remet pas en cause le respect des engagements qui ont été pris. Je pense néanmoins que au niveau de la présidence du comité de suivi, certaines ambitions vont s'exprimer et je pense que c'est tout à fait légitime. S'agissant de la primature, là, je pense que là aussi le jeu restera davantage ouvert, mais on peut considérer aussi d'une certaine manière que compte tenu de la personnalité forte qu'incarnait Étienne Tshisekedi, certains pourraient être pensés, ou en tout cas pourraient être tentés de croire que les choses seront, disons, beaucoup moins compliquées. Et je pense que c'est un pari que je ne prendrai pas le risque de prendre, si je peux m'exprimer ainsi, car la politique congolaise est suffisamment aléatoire et pleine de surprises que pour ne pas tomber dans le piège de prédictions.
C'était le consultant Henri Désiré Nzouzi. J'ai demandé à l'écrivain Fidel Lumeya, un analyste politique basé ici aux États-Unis, comment il voyait le legs de M. Tshisekedi et comment sa disparition allait affecter le paysage et le futur politique de la RDC.
Tshisekedi, pour rendre l'analyse plus simple, il faut le prendre comme le Michel Platini, les Zinedine Zidane, les Zico, les numéros 10, les milieux de terrain du football congolais. Le football ici représente la politique congolaise. Quand tu es à Kinshasa ou bien dans de grandes villes du Congo, la politique est représentée sous l'image du football. On parle du football politique. Si nous restons sur cette image congolaise, Tshisekedi était les milieux de terrain politique.
Alors, comment est-ce que la disparition de ce milieu de terrain politique va-t-elle affecter l'avenir politique du Congo, surtout dans le cadre actuel où il y a des tractations de toutes parts pour trouver une sortie de crise pour de bon?
À ce niveau ici, c'est justement, c'est comme un milieu de terrain très très actif qui joue sur la défensive et sur l'offensive, qui sort du terrain. Donc, clairement, le jeu est déstabilisé. La situation politique à ce niveau ici est déstabilisée. Le rassemblement politique qui est représenté le président Tshisekedi doit se retrouver comme une équipe qui manque les milieux de terrain et qui ne sait pas comment se réorganiser très vite parce que ce sont les dernières minutes. Il y a un empressement, donc il y a un vide qui se fait ressentir. Et ce vide-là n'est pas facile à combler.
Fidel Lumeya, merci. Merci aussi à Eddy Sango, Eric Manirakiza, Nicolas Pino, Idriss Fall et Thierry Kamundi de Top Congo FM et Charlie Kasereka. Notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM. Tout de suite sur VOA Afrique, le journal de la CAN, présenté par Nicolas Pino.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Immense déception à Libreville pour le Burkina Faso. Les étalons sont passés tout proche de la qualification au stade de l'amitié. Après une première période équilibrée, ce sont les Pharaons qui ouvrent le score à la 66e minute de jeu grâce à l'incontournable Salah, le joueur de l'AS Rome. Les étalons partent alors à l'assaut du but égyptien et sont récompensés par Aristide Bansé qui égalise un but partout. Les deux équipes en resteront là jusqu'à la terrible épreuve des tirs au but et ce sont les Pharaons qui se montrent les plus adroits et Samel Haradi stoppe notamment le pénalty du jeune gardien burkinabé de 20 ans Hervé Kouadio Kofi pour qualifier les Pharaons en finale. Le score final 1 but partout, 4 tirs au but à 3 pour l'Égypte. Le compte rendu et les réactions d'après-match avec Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Les Pharaons ont misé sur l'expérience de leur gardien de but et capitaine Essam Kamal El Hadary qui a repoussé les pénaltys de Kouakou Hervé Kofi et de Bertrand Traoré. Le coach Hector Cooper se dit satisfait de la qualification des siens, même si les Burkinabés ont mieux joué.
Burkina Faso estaba mejor que nosotros, se lo veía mejor que nosotros. Bueno, llegamos a la tanda de penaltis.
Elle a été même d'ailleurs meilleure que nous, surtout en deuxième mi-temps où elle a fait preuve de beaucoup d'agressivité. Quant à nous, nous avons éprouvé beaucoup de fatigue et le souhait c'était d'attendre l'épreuve des tirs au but parce que c'est une épreuve dans laquelle beaucoup de choses peuvent se passer.
Le sélectionneur des étalons, Paulo Duarte, a félicité les Égyptiens, mais estime que ces poulains auraient pu gagner la partie.
Mon attaquant va pour la surface, le défenseur coupe la balle avec la main. Monsieur l'arbitre, qui est un grand arbitre, souffle la faute après 30 secondes, après l'insistance de l'auxiliaire, il donne pas un coup de carton. C'est pas normal qu'il y ait une passe, la loi dit, un passe entre un adversaire et l'autre. La balle est coupée avec la main, obligé, carton, pas de carton.
Le match pour la troisième place sera le plus difficile pour les étalons, a prévenu Paulo Duarte. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique. Afrique.
À suivre ce soir à Franceville, l'autre demi-finale Ghana-Cameroun. Modèle de régularité depuis près d'une décennie mais jamais sacré, le Ghana, déjà finaliste en 2015, va tenter de faire aussi bien lors de cette CAN 2017. Mais ce ne sera pas facile, ils font face à une surprenante équipe du Cameroun. Le trophée qui fuit les Black Stars depuis 1982, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. Les confrontations directes ont plutôt été rares entre les deux mastodontes de la compétition, le Ghana et le Cameroun, qui se retrouvent ce jeudi soir à Franceville pour le compte des demi-finales de la CAN. Si un score nul a sanctionné la première rencontre en match de poule lors de l'édition 2000 au Ghana, le véritable match référence remonte à la demi-finale de la CAN 2008, toujours en terre ghanéenne, avec une victoire sur le fil du Cameroun par un but tardif d'un con qui envoya prématurément au lit les bouillants supporters des Black Stars. Pour cette troisième apparition, les données sont les mêmes qu'en 2008. D'un côté, il y a une équipe ghanéenne homogène, au sommet de son art et composée de joueurs confirmés comme les frères Ayou, Boy, Asamoah Gyan ou Atsu, aussi solide que celle des Essiennes et des Montari en 2008. En face, le Cameroun présente une formation en grande reconstruction autour du rescapé Moukandjo, dont le rôle rappelle celui du convalescent Samuel Eto'o il y a 9 ans. Si l'histoire ne se répète pas toujours, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Le Ghana va sûrement commencer la rencontre en équipe confirmée, c'est-à-dire prendre le jeu à son compte, là où les jeunes Camerounais, désireux d'écrire leur propre histoire, n'hésiteront pas à renouveler les mêmes recettes qui leur ont permis de s'emparer du scalp des Lions sénégalais en quart de finale. La présence sur le banc de touche de deux maîtres tacticiens, comme le Belge Hugo Broos et l'Israélien Abraham Grant, laisse penser que le coaching sera déterminant. Mais pourvu qu'une fois de plus, l'enjeu ne tue pas le jeu. À demain.
Voilà, c'est la fin de ce journal de la CAN sur notre antenne. Prochain point sur le tournoi, ce sera ce soir sur VOA Afrique. En attendant, rendez-vous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Merci Nicolas. Avant de se séparer, Jean-Roger Bion nous résume rapidement le reste de l'actualité. Jean-Roger.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. L'Italie a mis en place mercredi un fonds de 200 millions d'euros pour aider les pays africains à contrôler leurs frontières dans le cadre des mesures souhaitées par l'Union européenne pour stopper le flux de migrants en provenance des côtes libyennes. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réuniront vendredi à Malte pour avaliser de nouvelles mesures visant à limiter l'arrivée de migrants africains en Europe à travers la Méditerranée. En Gambie, 10 des 18 ministres du nouveau gouvernement gambien, dont une femme, ont prêté serment mercredi, 6 jours après le retour dans le pays du président Adama Barrow. Parmi les principaux ministres figurent 2 avocats de formation aux affaires étrangères, le chef historique de l'opposition Yahya Jammeh et Ousseyné Darbo, et à l'intérieur le conseiller spécial de M. Barrow, Mai Fati. Ici aux États-Unis, l'ex-PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, a pris mercredi les rênes de la diplomatie américaine, mais ce capitaine d'industrie proche du président russe Vladimir Poutine arrive dans un département d'État en quasi-rébellion contre le nouveau chef de l'exécutif américain. Ce Texan, âgé de 64 ans, dont 41 passés au sein du géant pétrolier américain, est dorénavant la voix et le visage de la première puissance mondiale à l'étranger après que le président Donald Trump, son vice-président Mike Pence et un vote du Sénat l'ont officiellement confirmé hier dans ses fonctions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé au président américain Donald Trump de retirer son décret migratoire qui ferme temporairement les frontières des États-Unis aux réfugiés et aux ressortissants de sept pays, estimant que ces mesures n'empêcheraient pas des terroristes de s'infiltrer. Ce décret qui suspend l'entrée aux États-Unis des réfugiés pendant 3 mois et des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane pendant 4 mois a suscité un tollé à travers le monde. L'administration du président américain Donald Trump a adressé mercredi une mise en garde à l'Iran, dont elle a dénoncé le comportement déstabilisateur au Moyen-Orient, citant en particulier le récent tir de missile confirmé par Téhéran. Cet avertissement a été lancé quelques heures avant que l'ex-PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, ne prête serment pour prendre les rênes de la diplomatie américaine. Enfin, Idrissa, la Russie a convoqué dans la nuit de mercredi à jeudi l'attaché militaire ukrainien et lui a remis une note de protestation après le survol jugé dangereux par un avion ukrainien de ses installations gazières au large de la Crimée.
Merci Jean-Roger. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci donc à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Daniel Brown pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.